Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous les fidèles et aux nouveaux auditeurs de Mélomanie. Merci d'être à l'écoute de ce magazine dédié à l'actualité musicale toulousaine et régionale. Que nous ont offert la semaine passée et que vont nous offrir la semaine qui vient les salles de concert de notre région. Voilà de quoi nous allons parler au cours de cette émission qui s'adresse à tous les amoureux de la musique classique et lyrique. Nous allons regarder ça de près avec les mélomaniaques qui ont répondu présent à mon appel. À mes côtés aujourd'hui, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Fidèle au rendez-vous également, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et La Voix du Midi. Je suis aussi très heureux d'accueillir de nouveau Serge Krzyzewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, membre fondateur des Clés de Saint-Pierre et directeur de l'Orchestre En Harmonie. Bienvenue à vous tous, trois chroniqueurs, pour passer en revue l'actualité musicale récente et celle qui s'annonce dans les prochains jours. Il y a de quoi faire comme d'habitude. Pour commencer, c'est ce que nous avons vu et entendu la semaine dernière qui va nous intéresser pour la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
La fin de la semaine passée et le week-end ont été marqués par les derniers concerts de Toulouse Les Orgues, une fin de festival en forme de feu d'artifice avec les concerts que Wayne Marshall a donnés avec l'Orchestre National du Capitole vendredi à la Halle au Grain, puis en solo samedi à la Basilique Saint-Sernin. Le festival s'est terminé dimanche par la Nuit de l'Orgue. Tous les trois, vous avez assisté à certains de ces rendez-vous et à d'autres. Avant de parler de Wayne Marshall et de la Nuit de l'Orgue, globalement, quelle impression gardez-vous de cette édition 2017 de Toulouse Les Orgues, en tout cas pour les concerts auxquels vous avez pu assister, était selon vous un bon millésime, aussi bien concernant la qualité des musiciens invités que celle de la programmation et des œuvres que l'on a pu y entendre?
Je ne sais pas trop, il est difficile de juger de la qualité de l'ensemble quand on n'a pas assisté à énormément de concerts, parce qu'il y en a tellement, c'est vrai qu'il est un petit peu difficile de choisir, et que finalement, quand il y a trop, on va nulle part parfois. Bon, mais cela dit, je crois que le thème qui était la folie cette année faisait qu'il y avait des choses très diverses, avec des mélanges musicaux, des choses originales, un peu de folie, c'est vrai, c'était pas uniquement classique, avec des concerts, notamment celui de clôture, qui était avec une jeune organiste qui joue à la fois de l'orgue, que c'était celui de la cathédrale Saint-Étienne, mais aussi de l'orgue Hammond, donc qui a montré qu'elle était sur tous les fronts de la musique. Finalement, bon...
Donc là, il y avait du jazz.
Il y avait du jazz, un peu de jazz. Cela dit, est-ce que c'est une bonne solution aussi d'être un petit peu sur tous les fronts comme ça? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas assisté à suffisamment de manifestations, mais je crois que l'an prochain, ils vont revenir au sacré dans l'orgue. Donc peut-être aussi, l'orgue, c'est quand même un instrument qui est associé...
Qui a partie liée, évidemment,
et qui a partie liée sacré, avec le caractère sacré. Bien qu'aujourd'hui, il y a des orgues dans les nouvelles salles de concert partout et que l'orgue a acquis son autonomie par rapport aux églises uniquement. Mais alors en France quand même, on a surtout des orgues dans les églises, notamment Saint-Sernin qui est magnifique et qu'on adore aller écouter. L'orgue de la Basilique, le Cavaillé-Colle, c'est un monument et c'est quelque chose qui attire toujours du monde de toute façon.
Une merveille que le monde entier nous envie, en tout cas pour ceux qui aiment l'orgue. Serge Chauzy, alors vous avez assisté à 4 ou 5 concerts?
Oui, voilà, 5 ou 6 concerts. Alors c'était extrêmement varié. J'ai aussi assisté au concert cinématographique.
Ah oui.
Il y a tous les ans, il y a une projection. Et là, il s'agissait du film mythique de Max Linder, Les Trois Mousquetaires, L'apostrophe et Trois Mousquetaires. Et là, c'était vraiment excellent. Évidemment, d'abord, le fait de revoir ce film qui est du délire le plus complet, avec des anachronismes hallucinants, avec le nom des personnages. Richelieu est devenu pauvre lieu. Et puis, on les voit utiliser le téléphone. Enfin, bon, c'est vraiment très amusant. Et c'était accompagné à l'orgue, donc improvisé, par une excellente organiste qui s'appelle Monika Melkova, qui est de Slovaquie, et qui improvisait au moment de la projection. Évidemment, une improvisation qu'elle avait dû préparer, bien sûr. Mais ça n'était pas redondant et c'était bien fait. Donc, ça a été une excellente soirée qui a eu un grand succès.
Ça, c'est une tradition bien installée, je crois, maintenant, le ciné-concert à Toulouse des Orgues.
Tous les ans, il y a...
À Saint-Sernin, oui.
Oui, j'y vais tous les ans, en général.
Avec un grand écran, évidemment, sur lequel on projette le film. Donc, c'était vraiment très, très bien.
Alors, d'autres concerts auxquels vous avez assisté. La semaine dernière, vous nous avez parlé de celui consacré à Max Reger.
Max Reger avec Jean-Baptiste
Dupont. À la Dalbade.
C'était extrêmement raffiné, bien fait, avec des couleurs de registres qui sont extraordinaires. Cet orgue de la Dalbade, il mérite d'être
connu,
d'être redécouvert. C'est vraiment un orgue merveilleux. Et puis il y a eu deux autres choses, donc le concert avec l'Orchestre du Capitole.
On va en parler dans quelques instants. Hein,
parce que... puis le concert final donc, de clôture,
la nuit de l'orgue.
Qui était la nuit des fous. Nuit de l'orgue, nuit des fous, cette année, donc ça tombait très bien. Et c'était vraiment, enfin, ça portait bien son nom, hein, parce qu'il y avait une alternance entre des pièces musicales, les plus diverses que l'on puisse imaginer, et puis des confidences d'organistes qui discutent sur divers thèmes, la redécouverte, l'approche de l'orgue, les dingues d'orgue, les organomaniaques, bon, la démesure, les cauchemars. Enfin, c'était vraiment très, très bien fait. Seul petit hic, petit bémol, c'est-à-dire que le projecteur est tombé en panne dès le début du concert, mais il a pu être remplacé. Et donc, la deuxième partie du concert, on a pu voir ce qui se passait dans la console, hein. Et à la tribune de l'orgue, donc c'était très bien. Mais il y a eu des pièces tout à fait incroyables, avec notamment des pièces d'un certain Mike Oldfield, avec des musiques à la fois répétitives, des musiques éthérées, oniriques. Enfin, c'était vraiment très bien. Et puis alors, il y a eu une pièce alors stupéfiante, qui est une pièce de Gheorghi Ligeti, qui s'appelle Volumina, qui était jouée par Jean-Baptiste Dupont, encore lui, avec des clusters. Mais c'était effrayant. Avec des crescendo, des décrescendo. Alors, comme on a pu jeter un œil sur ce qui se passait à la console, on a vu que ces clusters, ils étaient réalisés en posant des planches carrément sur les claviers, des planches de longueurs diverses. Et donc, on avait des clusters très différents, avec vraiment un effet stupéfiant. Hein. Plus d'autres, et puis une cantate qui était écrite par Jean-Claude Guidarini, qui est aussi l'un des organistes de Saint-Sernin. Une cantate en un acte qui s'appelle Rechtibule et Messmaker. Mais c'est une cantate tout à fait amusante avec une soliste qui était Nicole Fournier, la soprano. Alors c'est une espèce de medley qui commence par une transcription de l'ouverture de Don Giovanni, et puis il y a des extraits de mélodies, de chansons jusqu'à Jacques Brel. Mais c'est très réjouissant, très très bien fait. Donc voilà. Et puis ça s'est terminé sur des improvisations un peu jazzistiques avec Charles Balayer. Et puis c'est à la fin de ce concert que Yves Rechsteiner nous a annoncé donc le thème de la prochaine
édition.
Festival. Comme le disait Anne-Marie Chouchan, c'est l'orgue sacré, sacré orgue. Alors, il y a quand même
un petit jeu de mots, sans doute, qui cache une programmation qui sortira sans doute encore des sentiers battus.
Oui, oui, absolument.
Sacré orgue, je crois que le titre avait été pris par un festival, déjà par Xavier Darras, il y a fort longtemps, en jouant sur le mot sacré des deux côtés.
Oui. Alors, cette une orgue a commencé à 21h dimanche, ça s'est terminé à quelle heure?
Oh non, pas très, ça s'est terminé un peu avant minuit. Donc,
voilà, c'était raisonnable.
C'était raisonnable, on a eu d'autres nuits de l'orgue.
Et il n'y a pas de spectateurs qui sont devenus fous pendant les trois heures de concert?
Non, mais il n'en est pas moins vrai que Yves Rechsteiner a attribué la panne du vidéoprojecteur à la folie des organismes. Oui. Vraisemblablement, ça a dû jouer.
Je reconnais bien là son humour.
Oui.
Alors, on va parler maintenant de Wayne Marshall. Il a donné deux concerts dans le cadre de cette édition 2017 de Toulouse les Orgues. Le premier, c'était vendredi à la Lograin avec l'Orchestre National du Capitole, dirigé pour l'occasion par Joseph Svensson, je le précise. Ils ont interprété un programme composé de symphonies de Saint-Saëns et Vidor et de la toccata et fugue en ré mineur, la fameuse toccata de Jean-Sébastien Bach, transcrite par Stokowski. Là, je vais me tourner vers Serge Krzyzewski parce que d'une part, vous avez joué ce jour-là, vous étiez parmi les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, et d'autre part parce que vous connaissez bien Wayne Marshall en tant qu'organiste, mais aussi en tant que chef d'orchestre, puisqu'il a dirigé l'Orchestre National du Capitole à plusieurs reprises, notamment pour les concerts du Nouvel An, au moins deux fois, il y a quelques années, c'est très récent. Qu'est-ce que vous pensez de l'organiste et du chef qu'il est ?
Alors, il est aussi pianiste, puisqu'il a dirigé effectivement ses concerts du premier de l'an, souvent du piano, ou en jouant la Rhapsody in Blue, ou des pièces. Et ben, apparemment, c'est une personnalité très, très dynamique, qui a toujours beaucoup, beaucoup d'énergie, que mes collègues apprécient. C'est également une personne qui dirige, il a dirigé récemment Candide à Berlin, de Bernstein, enfin il a vraiment énormément de cordes à son arc, et moi j'ai eu le plaisir de le voir pour la première fois de jouer à côté de lui, et c'est un personnage qui a l'air vraiment très sympathique, hein. Il y avait cette participation dans la symphonie avec orgue, ce n'est pas la symphonie pour orgue, mais avec orgue, puisqu'on sait que l'orgue n'intervient que dans la deuxième partie du premier et deuxième partie du deuxième mouvement, donc dans une moitié maximum de la symphonie. Il y avait une pièce un peu particulière qui a été une réorchestration par Vidor d'un collage de trois de ses mouvements de symphonie personnel, donc puisque Vidor écrivait des symphonies pour orgue seul, il en a écrit presque une dizaine, et il en a extrait trois mouvements pour faire une symphonie avec orgue et orchestre, créée justement elle par Léopold Stokowski, et dont on a retrouvé le matériel et réédité le matériel dans les années 2002. Donc une œuvre qu'il faut déjà surtout écouter aussi comme une redécouverte. Hein, grand compositeur de l'école d'orgue française qui a succédé, à, je crois, à César Franck au CNSM, Charles-Marie Vidor. Effectivement, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup à voir, je pense, avec l'orchestration. Bon, il a orchestré pour l'orgue, mais l'orchestre lui-même, c'est peut-être pas quelqu'un qu'on connaît peu. Je me demande s'il n'y a pas une symphonie, ou alors il y a une symphonie Louis Vierne aussi, mais je ne sais pas si l'œuvre pour orchestre de Vidor est très développée. En tout cas, c'est une musique, je dirais, peut-être un petit peu datée. Moins datée, d'une certaine manière, que l'archi-connue symphonie avec orgue, qui, elle, est succédée dans ce programme, et que nous avons eu le très grand plaisir de jouer aussi sous la direction de Joseph Swensen, qui est alors pour nous, je pense,
un des chefs les plus appréciés, je crois,
vraiment représenter la parole quasi unanime de mes collègues, qui l'apprécient, et c'est d'un enthousiasme, un mélange de précision, de musicalité, d'enthousiasme. Certains d'entre nous se battent pour jouer avec lui, je dirais, presque, peut-être. Voilà. Puis la toccata et fugue, alors effectivement, ça c'est aussi une référence directe à l'orgue de Jean-Sébastien Bach, mais la version, on va dire, de Fantasia en couleur et en forme, puisque c'est l'extrait le plus abstrait du Fantasia de 37. On aime ou on n'aime pas cette version, mais c'est toujours agréable de la jouer. Quand on est musicien d'orchestre, c'est un vrai plaisir.
Alors, quand on est dans le public, ce qui était votre cas, Marie Chouchan et Serge Chosy, comment vous avez trouvé ce concert et comment vous avez trouvé Wayne Marshall à l'orgue?
Oui, alors, il faut préciser que Wayne Marshall jouait d'un orgue numérique.
Oui, puisque c'était à la main.
Évidemment, ça n'a pas tout à fait la richesse d'un bel orgue.
C'est pas les mêmes couleurs, bien sûr.
À tuyaux, hein, ça c'est certain. Mais c'était très bien, et c'était très bien coordonné avec l'orchestre, il n'y avait vraiment aucun problème. Alors, pour ce qui concerne le programme, donc, la symphonie de Saint-Saëns, bon, elle est bien connue, elle a très souvent été jouée par divers solistes, avec l'orchestre du Capitole d'ailleurs. C'était magnifiquement dirigé, c'est vrai, par Joseph Swensen, oui. Qui a une espèce de mysticisme dans sa baguette.
Oui, absolument. Oui, dans sa personnalité.
Dans sa personnalité.
Je précise que juste une toute petite chose, c'est une symphonie qu'il est très difficile de bien réaliser parce que justement, il faut un orgue, il faut une proximité dans la salle, etc. Et quand on la joue dans des églises, c'est une symphonie qui peut s'avérer effrayante à vraiment bien réaliser.
Pour réaliser les équilibres, oui. Ah là, l'équilibre était parfait. Hein. Il n'y avait aucun problème. Évidemment, on pouvait agir sur la puissance de l'orgue de manière numérique, donc il n'y avait aucun problème. C'était vraiment un beau moment. Quant à l'œuvre de Vidor, alors c'est assez particulier. Effectivement, on n'a pas l'impression que l'orchestrateur Vidor est du même niveau que l'organiste. Hein. Enfin, disons qu'il prend le parti pris de faire du pompier. Le premier mouvement est un festival de, si je puis utiliser ce mot, de pompierisme. Hein. C'est vraiment très solennel, très insistant. Par contre, le deuxième mouvement, il n'y a que les cordes. Et le mouvement est lyrique, il y a une certaine tendresse. Deuxième mouvement, j'ai assez apprécié. Et puis on retourne à ces grands démons, si l'on peut dire. Bon, c'est pas inintéressant, bien entendu. Hein. Et puis on découvrait, là. Hein. Bon, c'était agréable à découvrir, mais ne pourrait pas dire que c'est une grande œuvre sur le plan musical.
Je n'ai pas trouvé ça très agréable. Pas désagréable, mais pas très agréable. Voilà, pour dire les choses clairement.
Oui, c'est sûr. Alors que la fameuse transcription de la Toccata et Fugue par Léopold Stokowski, c'est tellement outré que ça n'est réjouissant. Il y a du rubato, il y a du romantisme là-dessus. C'est l'opposé de la manière dont on joue Bach actuellement. D'ailleurs, ça n'est plus du Bach, et puis ça n'a pas d'importance d'ailleurs. Par contre, c'est très bien orchestré. Et vraiment, les divers pupitres échangent les thèmes. Il y a une clarté dans l'orchestration qui est vraiment... vraiment de qualité.
Effectivement, bon, Stokowski connaissait très bien l'orchestre.
Ah bah oui.
Mais ce qui est drôle dans cette transcription, c'est qu'il nous emmène parfois, comme disait Serge Chosy, assez loin de Bach. On peut dire qu'il y a des moments, il y a le romantisme, le post-romantisme, l'hyper-romantisme, avec cette sorte quand même d'hypertrophie de l'orchestre. Orchestre énorme, hein, quand même, pour jouer ça. Et il y a des moments, c'est debussiste. C'est vraiment, il y a tout d'un coup des choses.
Expressionniste, vous voulez dire.
Complètement,
exactement.
D'un autre style.
Anne-Marie.
Je pense en fait que le programme de ce concert, qui était quand même finalement assez original, était destiné à mettre en valeur l'orgue, même s'il était numérique, dans le cadre de Toulouse les Orgues, puisque tous les ans, l'Orchestre du Capitole s'associe au festival. Et en général, jusqu'à cette année, c'était par un concert qui était en duplex avec l'orgue de la cathédrale, et que ça nécessite en fait, quand c'est en duplex avec un orgue véritable...
Ça complexifie encore la chose.
Ça complexifie, puis il paraît que ça coûte très cher surtout.
Certainement.
Et que c'est vrai qu'il est difficile en même temps aussi de dire on va faire un concert. Donc, dans le cadre du Festival Toulouse les Orgues, d'abord quelle œuvre, ensuite quel instrument, puisque la Halograin est dépourvue d'orgue, et que donc finalement ce concert avec ce clin d'œil à Bach, avec une œuvre qui était transcrite pour orchestre, ensuite cette symphonie de Vidor qui, c'est vrai, à l'orchestre n'était pas une œuvre, c'était oui des morceaux de symphonie pour orgue, mais qui finalement était un petit peu insolite et qui aussi avait l'orgue, et puis pour terminer sur la magnifique symphonie avec orgue de Saint-Saëns que l'orchestre connaît très bien, la troisième symphonie. Là, c'était une très très beau moment, aussi bien sur le plan de l'interprétation, de la qualité de l'orchestre, que de l'atmosphère qui régnait dans cette œuvre, qui était vraiment magnifique. Et c'est vrai que Joseph Swensen a très bien dirigé et que l'orchestre a, je crois, une fois encore, montré son excellence.
Il se trouve que Wayne Marshall a joué le lendemain, le samedi donc, en solo cette fois-ci sur le cavaillé-col de la basilique Saint-Sernin. Il a interprété la symphonie Passion de Marcel Dupré et il s'est livré à une de ses grandes spécialités, l'improvisation sur donc ce cavaillé-col de Saint-Sernin. Je vous propose qu'on l'écoute, Wayne Marshall, improvisé sur un orgue, pas celui de Saint-Sernin cette fois-ci, celui de la Philharmonie de Paris qu'il a inauguré. C'est lui qui a eu cet honneur. Il improvise sur un thème, un morceau très connu. On va voir si vous reconnaissez. Apparemment, ils ont fini par trouver. Serge Krzyzewski a trouvé assez rapidement. Alors, sur quel morceau, sur quel air connu improvisait Wayne Marshall ? Serge a trouvé, on va lui laisser la primauté, évidemment, pour
alors,
révéler.
Alors, contre toute attente, c'était un thème de Jacques Offenbach qui a permis à un très grand nombre de danseuses de se faire connaître.
Montrer leur souplesse.
Voilà, leur souplesse.
Oui, alors bon, il s'agit du Galop Infernal, le French Cancan d'Orphée aux Enfers, l'Opéra Bouffe de Jacques Offenbach. Et donc, c'était à l'occasion de l'inauguration de l'Orgue de la Philharmonie.
Et c'est Wayne Marshall qui joue.
C'est lui qui joue, là, oui, tout à fait. C'est lui qui improvise. Hein.
Il a plus d'une corde dans son arc, cet homme.
Il semblerait. Alors, on va maintenant changer de registre. On en avait parlé la semaine dernière. Les Sacboutiers ont donné un concert samedi en l'église Sainte-Marie de Sainte-Gabelle. Jean-Pierre Canillac au cornet à bouquin, Daniel Lassalle à la Sacboute. Et Yasuko Bouvard au Grand Orgue ont interprété le programme Danza Alta. Serge Chosy, vous y étiez bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce concert et de ce programme dont il faudrait peut-être rappeler au préalable de quoi il était fait ?
Voilà, il était fait de musique espagnole, datant du siècle d'or, fameux siècle d'or. Et alors, vous savez qu'il a failli ne pas avoir lieu parce que l'église de Sainte-Gabelle a été vandalisée. Et les vandales en question avaient abîmé le pédalier de l'orgue. Et finalement, on a pu réparer. Et donc, Yasuko Bouvard, qui était très déçu de ne pas pouvoir jouer sur cet orgue, a finalement pu jouer. Donc, le concert s'est passé de manière tout à fait normale. C'était un concert qui célébrait les 10 ans du festival de Sainte-Gabelle et de l'association des Amis de l'Orgue, parce que c'est vraiment un orgue très particulier, un orgue magnifique, hein, qui date de 1742, qui est un orgue d'une grande beauté, vraiment, qui a des timbres extraordinaires, notamment des cornets et des gros mornes, qui sont assez rares dans certains orgues. Et là, vraiment, c'était très très beau. On a eu droit donc à des pièces pour orgue seul, et puis des pièces où les trois musiciens étaient associés, avec des pièces en écho, des pièces donc espagnoles, toutes espagnoles, avec des compositeurs que l'on connaît à peu près de l'époque, comme Correa de Araújo, Juan Cabanilles ou Cabezón, Diego Ortiz, voilà des gens qui ont vraiment illustré la richesse de cette période très très belle, hein, avec des timbres magnifiques. Alors les deux instruments avant, cornet à bouquin et sac-bout, jouaient soit ensemble, soit en alternance, soit en écho, soit se répondant. Et donc, il y avait vraiment une grande variété d'expressions. Ça pouvait être très solennel, ça pouvait être à la fois très rythmé, avec des rythmes syncopés, très orné, avec toujours, évidemment, la possibilité pour la musique de cette époque, pour l'interprète, d'ajouter ses propres ornementations. Donc, c'est en quelque sorte l'équivalent des improvisations. Ça a été un beau concert qui a été très suivi, très apprécié par le public. C'était un concert gratuit, ce qui n'est pas négligeable, et donc c'était à 17h, un dimanche après-midi, faisait très beau.
Samedi.
Et donc...
C'était samedi, non?
Samedi, absolument. Et donc, ça a été vraiment un excellent moment de passer avec...
Alors, il se trouve que les Sacboutiers ont joué également jeudi un autre programme, intitulé également El Siglo de Oro,
siècle d'or aussi.
Espagnol. Voilà. J'ai un morceau, le titre est El Fuego, joué par les Sacboutiers, qui va nous mettre dans cette ambiance espagnole du siècle d'or. Voilà, un extrait d'El Fuego, interprété par les Sacboutiers. Alors, vous vouliez préciser, Serge Chosy, que ce concert de jeudi était donné par les Sacboutiers, mais il jouait également avec...
Oui, avec... c'était un concert réalisé dans le cadre de ce qu'on appelle le PAB, c'est-à-dire le Pôle des Arts Baroques du Conservatoire...
De Toulouse.
À rayonnement régional de Toulouse. Et donc, c'était un concert qui était donné avec les élèves des classes de chant... du conservatoire. Donc il y avait deux quatuors de chanteurs, plus deux solistes, Adriana Fernandez et Pierre-Yves Binard, qui sont des habitués, qui chantent très souvent avec les Sacboutiers. Et donc c'était un concert à la fois pédagogique et très vivant.
Alors on va dire quelques mots, Serge Krzyzewski nous l'a suggéré pendant qu'on écoutait ce morceau des Sacboutiers, du Cavaillé-École de Saint-Cernin, dont on a beaucoup parlé tout au long de ce festival toulousain, puisqu'après son relevage, on le redécouvrait nettoyé, si je puis dire. Comment vous l'avez trouvé, le son de ce Cavaillé-École, après le relevage ?
Ah ben très 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 vif, un son très direct, très puissant, puissant.
Et très pur.
Mais très pur et très coloré, hein, vraiment le relevage a été efficace apparemment. Hein.
Il a retrouvé toute sa forme telle qu'on a pu le connaître il y a quelques années. Ouais. Alors moi j'avais trouvé au concert d'ouverture que parfois ça saturait un peu tellement il y avait de puissance justement, mais bon, il paraît que ça s'atténue avec le temps. En tout cas j'ai trouvé aussi le son était vraiment magnifique. La semaine dernière également, nous avions reçu Gilles Colliard, le directeur de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, avec qui nous avons évoqué la saison d'information qu'il dirige et en particulier les concerts joués cette semaine. C'était un programme intitulé Wagner Forêt, donné lundi et mardi à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis mercredi et jeudi à l'Escale de Tournefeuille, avec Emmanuel Pellapra à l'harmonium pour accompagner l'orchestre de chambre. Ils ont joué des œuvres de Saint-Saëns, Forêt, Kempf et Wagner. Pour ma part, j'y ai fait de très belles découvertes, des œuvres que moi je ne connaissais pas, et j'ai trouvé que l'interprétation était vraiment au rendez-vous pour les mettre en valeur. Serge Krzyzewski, vous connaissez Emmanuel Pellapra, parce que vous avez joué avec lui. C'était à Condon, je crois, il y a 2 ans. Vous dirigez, vous, l'orchestre en harmonie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce musicien ?
Bah écoutez, c'est un musicien extrêmement attachant que j'ai connu, si je me souviens bien, en 2000, à l'occasion d'un concert Aimé Quinck, avec la redécouverte de la sonate pour violon, dont la partition avait été retrouvée. Et il y a une amitié musicale, ancienne maintenant déjà longue, hein, qui s'est mise en place. J'ai également fait la connaissance d'Henri Félix, enfin toutes les gens qui tournent autour de...
Henri Félix, qui est un descendant d'Aimé Quinck.
Absolument, de ce compositeur. Mais effectivement, on a également mis en place plus récemment... depuis la fondation de l'En Harmonie, des projets avec Emmanuel Pellapra, qui est un personnage musicien très très attachant, qui a aussi beaucoup de capacités, notamment de curiosité. Bon, depuis quelques années, il s'intéresse de près à l'harmonium, il fait tout ce qu'il peut pour rejouer des pièces carrément parfois oubliées, ou bien peu jouées, ou très très peu jouées. Donc il est en train, je pense, en passe de devenir un des spécialistes français de l'harmonium, avec plusieurs instruments, il a déjà beaucoup d'instruments. Et on avait eu la chance donc de faire un concert à la cathédrale de Condon avec lui, dans lequel il jouait de l'orgue. On avait effectivement recréé cette symphonie pour orgue de Gabriel Fauré, et également on avait joué une pièce de Weber avec harmonium. Voilà, il y avait eu un programme mix comme ça avec orchestre.
Moi, j'ai discuté un petit peu avec lui après son concert à Saint-Pierre-des-Cuisines, et j'ai vu que c'était bon, non seulement un musicien passionné par son instrument, mais passionné par l'histoire de la musique aussi.
Ah, il est musicologue, il est musicologue, oui, il pense au moins le CAPES, peut-être l'agrégation.
Mais il enseigne à Bordeaux.
Il enseigne à Bordeaux, il est effectivement toujours partant quand il y a des... il a également un compère qui est Jérôme Grandjean, ils font un duo qui est particulièrement original, c'est harmonium et piano, avec un piano d'époque, puisque Emmanuel a, je crois, propriétaire de quelques pianos anciens, des pianos Erard, 19e, donc Jérôme fait ça avec lui, et on avait eu l'occasion aussi de faire des concertos pour 4 claviers à Cahors, mais il est toujours partant dans des aventures un peu originales, et puis voilà, il est très très passionné.
Sur les programmes de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, je crois que vous vouliez peut-être dire un mot, Anne-Marie Chouchon, sur l'originalité qui est à chaque fois la recherche, la redécouverte d'œuvres ou de compositeurs d'ailleurs, comme Kempf lundi dernier, qu'on n'est vraiment pas habitué à entendre dans les salles toulousaines ou ailleurs. Hein.
Oui, je crois que Gilles Colliard, c'est vrai, depuis qu'il est à Toulouse, ça fait déjà quelques années, il aussi enseigne au conservatoire la musique en scène.
Il dirige même le département musique en scène.
Il dirige, oui, c'est ça. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a le talent aussi, indépendamment de ses dons d'interprète, de chercher toujours, de fureter, de chercher de nouveaux répertoires, d'inviter des solistes différents de ce qu'on entend par ailleurs, et qui compose en fait chaque cycle de concerts d'abonnement, puisqu'il y en a 4 par mois, avec des choses tout à fait différentes. Et c'est pas toujours évident, c'est vrai, de fureter de cette manière, surtout avec un orchestre qui n'a quand même qu'un peu plus d'une dizaine de musiciens, donc il faut aussi une douzaine. C'est lui qui fait souvent les adaptations pour cette formation.
Il est compositeur lui-même.
Il est compositeur aussi, parfois il écrit lui aussi des œuvres. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de travail derrière, d'imagination aussi, pour que ces concerts ne sombrent pas dans la routine, loin de là.
Il y a une certaine prise de risque aussi, qu'on peut saluer. Hein.
Oui, et que le public en fait le suit, puisque ces concerts qui sont, c'est vrai, dans des salles, bon, Saint-Pierre-des-Cuisines, il y a 400 places.
C'est l'escale un peu plus.
Mais enfin, ils les doublent, donc finalement, ils ont un public fidèle. Et ils font aussi cette année, ils ont créé une nouvelle série à l'hôtel Palladia, près de Purpan. Et alors, avec aussi une formule assez originale. Donc, ils se
produisent beaucoup.
Ils se produisent, et voilà.
Il est aussi grand violoniste. Hein,
ah oui, il faut le dire.
C'est vraiment un grand soliste. Virtuose
du violon.
Ah,
hein.
Tout à fait. Il joue du Paganini.
Il a dirigé, c'est lui qui a dirigé les concerts, là. Et c'était vraiment remarquable.
C'est un peu le... concept laïque, on va dire, version laïque du Kapellmeister, enfin, qui peut faire un petit peu toutes les fonctions.
Maître de chapelle.
Je ne sais pas si c'est version suisse ou allemande, mais...
Allez, on va refermer là-dessus la première partie de cette émission. On se retrouve dans une minute pour la seconde, consacrée à l'agenda de la semaine à venir. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchamp, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et La Voix du Midi, et Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, membre fondateur des Clés de Saint-Pierre et directeur de l'Orchestre en Harmonie.
Mélomanie, l'agenda.
Dans l'agenda de la semaine, un événement qui a lieu loin de notre région, mais cependant très important pour la renommée de la scène musicale toulousaine et régionale. Je veux parler de la tournée que va faire l'Orchestre National du Capitole en Amérique du Sud. Ça se passe du 23 au 31 octobre. Des concerts sont prévus à Buenos Aires, Montevideo, São Paulo et Rio de Janeiro. L'Argentine, l'Uruguay et le Brésil au programme des musiciens de l'ensemble symphonique toulousain. Et parmi eux, un certain Serge Krichewski, ici présent. Alors dites-moi Serge, les tournées qu'effectue l'orchestre depuis des années un peu partout dans le monde, ça doit être des moments très particuliers dans la vie d'un musicien.
Oui, oui, c'est vraiment les deux ou trois, enfin, il y a les grandes tournées, hein, de grands rendez-vous, des moments qui balisent notre année musicale quand même. Hein. On a chacun des préférences pour l'Asie, pour l'Europe ou l'Amérique du Sud, hein, mais on est tous toujours très très heureux pour la raison principale suivante, c'est que c'est le moment où nous, bien entendu, nous avons le plaisir de déployer, de projeter l'esprit, l'image de la ville de Toulouse à l'étranger, mais sur le plan vraiment professionnel, ça nous permet d'avoir nous frotter à des acoustiques de salles exceptionnelles. Nous avons eu la chance d'aller avec Ougan Sokiev au théâtre Bolchoï, donc ça c'est quand même, on avait joué le Requiem de Berlioz il y a quelques années. Là en l'occurrence, et même si c'est Buenos Aires, c'est encore un petit peu Toulouse par l'intermédiaire de Carlos Gardel, jouer au théâtre aux colonnes, c'est quand même quelque chose, hein. C'est une expérience vraiment exceptionnelle, on a eu la chance de le faire moi personnellement en 2012 et puis l'orchestre déjà encore auparavant, et là on y retourne. Nous commençons donc le 23 et le 25, si je ne me trompe pas, par deux concerts dans ce théâtre splendide, qui est un théâtre à l'italienne, ni plus ni moins, mais gigantesque, et qui a une acoustique vraiment hors du commun.
Oui, gigantesque, il y a combien de places ?
C'est au moins 2000, je pense, enfin peut-être même encore beaucoup plus. Hein. Oui, j'avoue que je...
On vérifiera. C'était pour l'anecdote. Donc ça, il y aura deux concerts, effectivement, le 23 et le 25 octobre au Théâtre Colonne de Buenos Aires. Ensuite, vous jouez à Montevideo le 26 octobre. Oui. C'est une première, l'Uruguay ?
Alors, non. Pour l'orchestre, ça n'est pas une première. Je pense qu'il y a eu, un voyage il y a bien longtemps, certainement avec Michel Plasson, à Montevideo. Mais alors maintenant, dans quelle salle ont-ils joué ? Parce que forcément, il y a peut-être 20 ou 25 ans, ou peut-être même 30 ans, les équipements ont pu changer. Notamment, par exemple, la salle de São Paulo où nous allons jouer est une salle relativement moderne. Et je pense que même si l'orchestre n'était jamais allé au Brésil avant 2012, je pense que... Il y a eu des voyages dans d'autres pays d'Amérique du Sud, mais le Brésil peut-être pas. En tout cas, cette salle de São Paulo était une nouveauté pour l'orchestre. Par contre, alors, la curiosité aussi, c'est à Rio de Janeiro, il y a une sorte de mini-opéra Garnier, puisque Serge Chauzy pourra nous en parler
en
détail. Oui,
grand connaisseur du Brésil.
Grand connaisseur du Brésil. Et cette salle, on a eu la très grande surprise de découvrir ce magnifique opéra, évidemment, avec toutes les pierres précieuses du pays qui ont été réutilisées et dessinées et construites par un élève de Garnier, de Charles Garnier.
Voilà, il s'agit de l'opéra municipal, théâtre municipal de Rio de Janeiro. Alors, c'est une salle magnifique, hein, une grande salle avec une belle acoustique. Je signale aux musiciens qui y vont, et sous la salle, il y a un restaurant formidable qui s'appelle le Salon assyrien, salon assyrieux, et qui vaut la visite par la décoration et par la cuisine. Alors ça, c'est à Rio, à São Paulo. La salle s'appelle Sala São Paulo, justement. C'est une ancienne gare, en fait. C'est une salle des pas perdus, l'ancienne salle des pas perdus de la gare centrale de São Paulo, qui est une très grande salle avec des... très bien décoré, avec de belles colonnes et une acoustique magnifique. Donc,
De très beaux souvenirs. On avait fait deux concerts, effectivement. Ouais. Et je comprends mieux maintenant, là, parce que la sensation qu'on a en arrivant visuel, on a l'impression de se trouver, effectivement, il y a un grand parvis devant, comme si était devant une gare, une ancienne gare. Bon, il n'y a pas que la gare d'Orsay qui peut être
rénovée et réutilisée pour une autre fonction. Tout de même, à quoi ça ressemble la vie du musicien en tournée ? Est-ce qu'on a le temps un peu de profiter du pays, de visiter, ou alors c'est au pas de charge, ou on est dans un avion ou dans un bus, où on joue et on répète ?
Alors, c'est très variable suivant la durée de la tournée, suivant l'éloignement, mais il peut y avoir des tournées très proches de Toulouse qui sont parfois très fatigantes. La densité de concerts, évidemment, est importante. Hein, quand on a beaucoup de concerts en une semaine, par exemple, ou même en 6 jours, si on fait juste un déplacement court pour 2 jours, c'est moins fatigant. Bon, paradoxalement, les tournées plus longues et surtout éloignées, on est obligé d'avoir des jours de récupération parce que il y a des problèmes de décalage horaire. Donc ça, c'est l'organisation, les tourneurs doivent ménager pour les musiciens des moments de repos. Et il y a aussi le temps nécessaire à l'installation de l'orchestre, de tous les instruments, pour tous les techniciens, les garçons d'orchestre qui nous accompagnent. Et bon, ça, c'est à prendre en compte. Surtout que souvent, il y a des répétitions, des productions en cours sur place. Quand on va jouer à Vienne, par exemple, la plupart du temps, on a la très grande chance de jouer soit au Concerthaus, soit au Musikverein. Il y a des répétitions parfois dans l'après-midi et on n'a qu'une demi-heure pour répéter. C'est le cas aussi à la Philharmonie de Paris. Donc, mais on s'arrange et puis... comme l'oreille et l'oreille du musicien, la mémoire musicale des musiciens est très particulière, quelque part, on garde un souvenir de l'image acoustique de beaucoup des grandes salles dans lesquelles on a joué. Et on arrive, pas en terrain connu, mais enfin bon, le Musikverein, au bout de quand même de 5, 6, presque 10 fois où on y a joué, on sait à quoi un peu on va s'attendre. Même le Théâtre aux Colonnes, je pense qu'on s'attend à un moment fantastique, exceptionnel. Donc il y a ce plaisir de retrouver des lieux mythiques, hein.
Je me demandais s'il y avait une pression particulière lors de ces tournées, dans la mesure où vous représentez évidemment la musique française, la musique toulousaine, et puis il faut faire bonne impression, parce que on veut qu'il y en ait d'autres des tournées, si on veut que ça fonctionne, il faut faire de bonnes prestations.
Oui, indéniablement, il y a une surexcitation, un désir de faire encore mieux qu'habituellement, ce qu'on a déjà beaucoup en nous tous, mais en tournée dans des destinations aussi prestigieuses musicalement que ces endroits, Vienne, Cologne, ou évidemment l'Amérique du Sud, ou le Japon, enfin en Asie, il y a énormément de lieux fantastiques aussi, on est toujours dans des moments exceptionnels. Et bon, Tougan Sokiev aussi, lui, il a vraiment un sens particulier pour ça, pour tirer le meilleur des musiciens dans ces moments-là. Mais pour chaque personne individuellement, pour chaque musicien, c'est un moment très fort.
Anne-Marie Chouchan, vous avez eu l'occasion d'accompagner à plusieurs reprises, lors de différentes tournées de l'Orchestre National du Capitole, vous, vu un peu de l'extérieur, quelle ambiance règne ? Quels souvenirs vous en gardez ?
D'abord, oui, ce que vient de dire Serge Krzyzewski, c'est que c'est vrai que c'est toute une organisation, hein, parce qu'il y a l'organisation des musiciens, mais il y a aussi l'organisation matérielle. Il y a à chaque concert, enfin, sauf s'il y a 2 concerts dans une même salle, mais sinon, il faut démonter d'abord le soir même la scène, les instruments de musique, les remettre dans les boîtes et les caisses. Et ensuite, il faut les remonter à chaque étape. Donc, ça suppose qu'il y ait un personnel technique de l'orchestre qui soit très actif et très, très efficient à chaque fois. C'est beaucoup de travail quand même, parce qu'il faut que rien ne manque, hein. Pas une partition sur les pupitres, que tout soit...
Ça demande de la collaboration aussi avec les personnes en place, parce qu'il y a...
Et là, pour une tournée aussi longue, aussi lointaine que l'Amérique du Sud, je suppose que cette fois-ci aussi, bien sûr, les instruments voyagent par avion cargo.
Oui, ils sont déjà partis, ils nous ont précédés, et on a la chance, en tout cas pour l'Argentine, on a un régisseur technique qui est hispanophone, ça peut aider quand on va en Espagne aussi, mais c'est vrai que tout, tous les contacts aussi avec les régisseurs des théâtres ou des salles dans lesquelles on joue, c'est un élément extrêmement important pour la connexion, le partage, la répartition des différentes tâches et charges pour la préparation du concert.
Et la chose à laquelle je suis sensible quand je vous accompagne, c'est aussi la première répétition que vous faites souvent l'après-midi du concert, hein, en général, l'orchestre qui arrive justement sur la scène où tout doit être en place, les premiers accords, le chef qui regarde, vous regardez l'acoustique, vous aussi, tout le monde s'accorde, il faut tester une nouvelle acoustique, penser au concert du soir qui soit le meilleur, avec de nouveaux publics, c'est aussi une façon de se confronter, c'est vrai, à d'autres publics, mais enfin, c'est très organisé et c'est vrai que les musiciens qui voyagent, c'est beaucoup de travail et aussi...
De la concentration, du stress...
Oui, parce qu'en même temps, il faut être au top, tout en ayant des conditions qui ne sont pas celles que l'on a dans sa vie habituelle, donc il faut aussi que, au-delà de la fatigue des déplacements, des décalages horaires ou autres, on soit de toute façon en pleine forme.
Bon, je pense que tout le monde aura compris, ce ne sont pas des vacances.
Non.
J'aimerais bien poser une question à Serge Krzyzewski à propos des acoustiques. De quelle manière l'acoustique d'une salle influe sur vos manières de jouer ?
Alors, j'allais précisément rebondir sur cette question à propos de ce que disait Anne-Marie Chouchan, c'est qu'il y a une question très intéressante qui est la répétition dans une salle vide et le concert dans une salle pleine. C'est une chose qui est complètement différente et il est clair que le raccord pour nous, on prend un peu nos marques au moment du raccord et c'est vrai qu'il y a toujours un moment quand même magique qui est les premières notes qu'on fait dans une salle de très, très haut niveau et dans laquelle on arrive et donc au moment de la répétition elle est quasiment vide et on sait très bien que ce sera complètement différent le soir du concert. Donc c'est vrai qu'être musicien d'orchestre, musicien qui part en tournée, on sait que c'est un art de l'adaptation aussi pour le chef d'orchestre, bien entendu, qui doit régler des équilibres sonores parfois en temps réel, à la dernière minute, parce qu'il y a des choses surprenantes. Si c'est le Musikverein, le Concertgebouw d'Amsterdam, si la salle est complètement pleine ou aux trois quarts pleine, ça peut changer beaucoup. Il y a notamment une chose qui est très importante, c'est que une des choses qui nous apporte énormément de jouer dans des acoustiques différentes de nos acoustiques habituelles, c'est le fait que tout simplement, on entend des choses différentes dans une œuvre qu'on connaît très bien. Par exemple, une œuvre qu'on peut avoir énormément jouée comme la Symphonie Fantastique, La Mer ou Scheherazade, pour parler de celle qu'on va jouer bientôt, on peut tout simplement entendre de nouvelles choses, puisque géographiquement, les éloignements, les espaces entre les musiciens ne sont pas les mêmes. La géographie de la scène n'est jamais la même. Donc, c'est aussi, il y a une part de découverte et d'éveil ou de réveil pour les oreilles.
Alors, j'ai sous les yeux les programmes que vous allez jouer lors de ces concerts en Uruguay, au Brésil et en Argentine. Il y aura deux ouvertures, le Carnaval romain de Berlioz, l'ouverture festive de Shostakovich, deux concertos pour piano avec Bertrand Chamaillou, donc c'est vraiment 100% toulousain cette tournée. Il y a le cinquième concerto pour piano de Camille Saint-Saëns et le concerto pour piano et trompette encore de Shostakovich. Trois pièces symphoniques, Scheherazade, La Mer et L'Oiseau de Feu de Stravinsky, dont nous allons écouter tout de suite un extrait, interprété bien sûr par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tugan Sokiev.
Thank you.
Un extrait de L'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky, interprété par l'Orchestre national du Capitole, sous la direction de Tougan Sokiev, une des œuvres que les mêmes joueront en concert lors de leur tournée en Amérique du Sud du 23 au 31 octobre, pendant laquelle Bertrand Chamaillou se joindra à eux. Très précisément, je rappelle donc les dates, l'Orchestre national du Capitole va donner des concerts à Buenos Aires les 23 et 25 octobre, Montevideo le 26 octobre, Rio le 30 octobre et San Paolo les 29 et 31 octobre. Dans l'agenda de la semaine, il y a aussi le concert que donnent Philippe Jarouski et l'ensemble Artaserce mardi prochain, le 24 octobre à 20h30 au Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, un événement organisé et programmé par le Parvis, la scène nationale de Tarbes. Au programme de ce concert, uniquement des airs d'opéra de Handel. On ne présente plus Philippe Jarouski, qui se produit presque chaque saison dans la métropole toulousaine, que ce soit au Dissud ou aux Grands Interprètes, où il donne d'ailleurs ce même programme le jeudi 30 novembre à la Lograin. Je pense que vous avez tous ici eu l'occasion de l'entendre en concert. Philippe Jarouski est très médiatisé depuis plus de 10 ans maintenant. Que vous inspire sa voix et le répertoire dans lequel il s'est investi depuis quelques années ?
Oui, bon, c'est évidemment l'un des grands contre-ténors actuels, qui est non seulement une personne extrêmement sympathique et très abordable.
C'est vrai que c'est ce que tout le monde dit.
Ah oui, c'est vraiment pas, il ne joue pas les stars, bien qu'il soit une star.
Ça, oui, hein, je dis, il est très médiatisé et à juste titre.
C'est vraiment quelqu'un qui a une grande culture et puis qui interprète. Hein, il avait même donné...
Et qui cherche.
Qui cherche. Il avait même donné ici à Toulouse un concert avec des mélodies françaises, Reynaldo Hahn et autres. Et c'était très bien. C'était vraiment très bon. Alors qu'a priori, on pouvait se dire que vient faire un contre-ténor dans des mélodies du 19e et 20e siècle. Eh bien, il avait adapté son style de chant. Il avait d'ailleurs réalisé une chose très amusante. En bis, il avait redonné une des mélodies qu'il avait chantées au cours du concert. Et il a commencé la mélodie avec une voix de baryton.
Qui est d'ailleurs, je crois, son thème d'origine.
C'est son thème d'origine. Alors, il a chanté une strophe avec sa voix de baryton, et puis il a fait une grande grimace en disant « Non, vraiment, ça ne va pas ». Et il est passé dans sa voix de contre-ténor, et c'était très beau, très très beau.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, sur le plan musical, est toujours passionnant. C'est pas simplement une voix qui est une curiosité de contre-ténor qu'il a vraiment travaillé et qui s'adapte à un répertoire baroque très très large. Et il essaye aussi de diversifier beaucoup son répertoire. Je crois qu'il a fait, en dehors des mélodies françaises, je crois qu'il s'était lancé à faire d'autres répertoires. C'est quelqu'un qui cherche aussi toujours et qui, c'est vrai, était très attachant, très sensible et très rigoureux dans son travail. Et dans son art, la voix est toujours très très bien conduite, il y a beaucoup de sensibilité, d'émotion, c'est quelqu'un, oui, qui est très attachant.
Puis c'est un excellent acteur, quand il chante dans un opéra
il en version scénique. Vraiment.
Ah oui, vraiment, c'est quelqu'un qui convainc par sa manière de jouer, et en plus de son chant, évidemment.
Serge Krzyzewski, un mot sur Philippe Jarouski?
Une grande star. Alors, justement, ce que disait Serge Josy à l'instant, là, me rappelait que je n'avais jamais vu Jarouski sur scène. Enfin, on doit pouvoir le voir dans des vidéos, je n'ai pas eu l'occasion, mais ce serait certainement passionnant. Mais évidemment, c'est un très grand artiste, qui peut-être maintenant montre bien à quel point les artistes grands chanteurs, ou on parlait de Gilles Colliard d'une manière un peu différente, ou Wayne Marshall aussi, hein, peuvent avoir des rayons très complémentaires dans leur art et avoir des facultés très diverses, très, très riches.
Ce répertoire là, d'air d'opéra de Handel, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, sans parler de Jarouski lui-même? Est-ce que c'est un répertoire qui vous attire et vous êtes impatient de découvrir avec lui?
C'est un répertoire qui est difficile, parce que s'il est chanté de manière uniforme, ça peut être très ennuyeux. Alors que, justement, dans un aria da capo, c'est bien ce que ça veut dire. On répète, on reprend l'air au début. C'est pas pour le chanter de la même manière. Sinon, ça n'est pas la peine. Et quelqu'un comme Philippe Jarouski sait varier les choses. Et lorsqu'il fait la reprise de l'aria da capo, il modifie. C'est presque un deuxième air qu'il chante en ornementant. Donc, c'est un répertoire à la fois très virtuose, avec des réussites formidables, et puis d'autres qui le sont moins. Hein. Mais il y a des airs d'une grande émotion d'opéra de Handel. L'Achat la Spina, ou... Bon, évidemment, c'était un air très connu.
Il y a des tubes, mais...
Un des tubes de tout l'opéra.
Il y a notamment des airs lents,
très bien.
Absolument magnifiques, dont certains sont très célèbres, mais c'est un répertoire très très riche. Hein.
Oui.
Bon, on va écouter ce que ça donne Handel, chanté par Philippe Jarouski. Il s'agit d'un extrait de Flavio.
Quando poi la ci, quando è tardi, al silo scalda, rompo in là.
La virtuosité de Philippe Jarouski dans cet extrait de Flavio, l'opéra de Handel. Donc Philippe Jarouski sera en concert mardi prochain, le 24 octobre à 20h30 au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes avec l'ensemble Artaserse, un programme d'air d'opéra de Handel. Notez d'ores et déjà sur vos agendas qu'ils donneront également ce programme lors du concert du jeudi 30 novembre dans le cadre de la saison des grands interprètes à la Halograin. Merci beaucoup à tous les trois, Anne-Marie Chouchan, Serge Chosy et Serge Krichewski, d'avoir participé à cette émission. On se revoit bientôt pour un nouveau numéro de Mélomanie. Je rappelle que l'Orchestre National du Capitole est en tournée en Amérique du Sud du 23 au 31 octobre et que Serge Krichewski est de la partie, ainsi que notre pianiste toulousain Bertrand Chamaillou. Bon voyage et bonne tournée à vous, Serge, parce que vous allez partir dans quelques heures. J'espère que vous nous raconterez vos aventures sud-américaines à votre tour. Si vous nous écoutez dans la région lourdaise ou du côté de Tarbes, allez écouter Philippe Jarouski au Sanctuaire de Lourdes mardi prochain à 20h30. La régie technique de cette émission était assurée par Jean Loirzac. Vous pouvez bien sûr écouter ce numéro en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.